L'invité.
Le 9 octobre, c'est la journée mondiale du handicap. Sensible à cette thématique au quotidien, nous avons souhaité mettre particulièrement à l'honneur le quotidien des personnes actives en situation de handicap. Cette semaine, rencontre donc avec Cécile Étier, une jeune chrétienne lyonnaise atteinte d'un handicap. Bonjour Cécile.
Bonjour Anaïs.
Vous avez 37 ans, vous travaillez à Lyon. Expliquez-nous peut-être déjà un petit peu, présentez-vous. Qui êtes-vous, Cécile ?
J'ai 37 ans, je suis atteinte d'infirmité motrice cérébrale liée à un manque d'oxygène après ma naissance. Aujourd'hui, je travaille comme analyste comptable à temps partiel.
Comment vous êtes venu ce déclic de travailler à temps partiel ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez à temps partiel et pas à temps complet ?
En 2014, j'ai traversé une période de très grande fatigue qui était en partie liée aux conséquences de mon handicap dans ma vie quotidienne. Et j'ai pris conscience de la nécessité pour moi de travailler à temps partiel afin de dégager du temps pour pouvoir mieux vivre ma vie au quotidien. Du temps à la fois pour m'occuper de choses spécifiques à mon handicap et pour pouvoir me laisser plus de temps aussi pour la vie. Cette période de très grande fatigue m'a fait prendre conscience que jusqu'à présent, j'avais toujours voulu vivre quelque part comme si mon handicap n'existait pas. Et peut-être en ne prenant pas suffisamment en compte dans ma vie les limitations réelles que cela m'impose au quotidien. Et à force de pousser trop loin les limites, j'ai épuisé mon corps.
Quelles sont, ces contraintes, puisque moi je vous vois visuellement, mais nos auditeurs ne vous voient pas. En quoi consiste votre handicap aujourd'hui ?
Mon handicap est un handicap moteur qui crée une limitation à la marche. Je me déplace avec des bâtons de marche qui remplacent des cannes canadiennes, mais qui servent à un appui pour faciliter la marche. Et lorsque je me déplace sur des trajets plus longs ou plus réguliers, je peux utiliser aussi un fauteuil roulant manuel qui est un peu comme ma bicyclette.
Et vous avez toujours voulu volontairement être indépendante, c'est-à-dire ne pas dépendre des autres. Vous me disiez tout à l'heure que ça vous tenait à cœur de prendre les transports en commun pour aller au travail tous les matins.
Effectivement, ça a été très important pour moi dans les premières années où j'ai commencé à travailler de prendre les transports en commun, de pouvoir faire tout comme tout le monde. Et ça a été un des facteurs d'épuisement. Et aujourd'hui, j'ai dû accepter une aide pour les déplacements domicile-travail. Et je bénéficie aujourd'hui des services Optibus pour mes transports aller et retour, c'est-à-dire un substitut de transport en commun pour les personnes à mobilité réduite. Cela m'a créé une contrainte d'emploi du temps qui a été difficile à intégrer dans ma vie, ou plus qu'une contrainte d'emploi du temps, une contrainte d'organisation. J'appréciais quand je prenais les transports en commun de pouvoir rentrer par un autre chemin que de rentrer directement à mon domicile. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut que j'anticipe davantage, si je le souhaite, ce qui laisse un petit peu moins de place à l'imprévu, mais qui me permet aussi de limiter la fatigue et du coup de dégager de l'énergie pour être disponible à la vie.
Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées aujourd'hui à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais le taux de chômage reste le double de celui des valides. 500 000 personnes en situation de handicap sont au chômage en France. Vous travaillez depuis 12 ans. Comment s'est passée votre entrée dans la vie active ?
Je sais que le taux de chômage est important chez les personnes en situation de handicap. J'ai la très grande chance d'avoir pu faire des études. Et effectivement, j'ai conscience aujourd'hui que le premier point pour l'insertion des personnes handicapées, c'est effectivement la sensibilisation des entreprises, mais c'est aussi la formation des personnes en situation de handicap pour que leur formation puisse être en adéquation avec les besoins des entreprises. Pour ma part, mon parcours d'insertion en entreprise a été le même parcours qu'une personne valide, puisque pour moi même, le fait de faire figurer mon handicap sur le CV a été une réelle question, parce que je ne souhaitais pas être recrutée pour un quota de personnes handicapées en entreprise. C'était vraiment quelque chose pour moi de très difficile à vivre, et plusieurs personnes plus ou moins délicates m'avaient fait remarquer que, étant donné mon profil et mon handicap, je n'aurais aucune difficulté à trouver du travail puisque les entreprises auraient envie de s'arracher un profil comme le mien. Et en fait, j'avais été tout à fait rassurée lorsque des conseillers carrière que j'avais pu rencontrer dans l'entreprise que j'ai intégrée m'avaient dit qu'ils souhaitaient avant tout recruter une personne et qu'ils me recruteraient pour mes compétences. Et c'est certainement ce qui a été aussi pour moi un critère de choix lorsque j'ai avancé dans le processus de recrutement. Je savais que je serais recrutée, non pas pour remplir un quota, mais parce que j'étais une personne avec des compétences et que ces compétences conviendraient à l'entreprise.
Est-ce que vous avez été face à quelques difficultés? Alors, on a la chance d'être ici dans un bâtiment moderne, donc bien équipé en ascenseur, très accessible aux personnes à mobilité réduite. Mais est-ce qu'il y a des contraintes, des choses auxquelles vous avez été confronté quand vous êtes entré dans la vie active qui ont compliqué peut-être un petit peu les choses? Ou est-ce que finalement, maintenant en 2017, on peut se dire que c'est quand même relativement simple et pratique?
Quand je suis arrivée dans la vie active, le bâtiment dans lequel j'étais n'était pas accessible ou pas facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Et le bureau était en travaux ou en cours de réorganisation et il y avait un certain nombre de fils électriques à terre. Ça a créé des situations dangereuses pour tout le monde, mais pour moi en particulier. Et la situation a duré plusieurs semaines jusqu'à qu'une de mes collègues prenne la situation en main et aille vraiment s'enquérir auprès des services techniques de la date de réalisation des travaux. Et la personne en charge des travaux était arrivée dans le bureau en disant « Ah oui, c'est vrai qu'il faudra les faire vite parce qu'une personne handicapée va arriver. » Et ma collègue lui avait dit « En fait, elle est déjà là. » Donc c'est vraiment très urgent.
C'est presque des petites situations du quotidien qui sont des challenges pour vous. Des situations peuvent devenir dangereuses alors que pour quelqu'un de valide, c'est finalement assez simple d'éviter un fil.
Oui, tout à fait. Et peut-être que la plus grande difficulté liée à mon handicap est qu'il ne se voit pas et que je ne perçois pas les reliefs du fait d'une absence de vision binoculaire. Ça peut compliquer mes déplacements ou en tout cas ça peut occasionner des chutes. Et c'est vrai que je suis tout à fait reconnaissante que mes collègues soient bienveillants et attentifs pour m'aider si besoin ou en tout cas pour me signaler différentes situations qui pourraient être dangereuses.
Le fait que votre handicap ne se voit pas, pour vous c'est plutôt une chance ou plutôt une difficulté?
Pour moi, mon handicap se voit, mon handicap est visible. Je pense que pour moi c'est une chance parce que ça place les choses. Maintenant, pour moi il est visible mais je me rends compte avec grande joie parfois qu'il n'est pas toujours visible et qu'il est d'autant moins visible maintenant que j'utilise des bâtons de marche qui peuvent me situer parfois dans la catégorie des randonneurs. Ce qui peut aussi créer un certain nombre de situations assez cocasses. Le même genre de situation pouvait arriver lorsque j'avais des cannes canadiennes et qu'ils m'étaient demandé si je m'étais cassé la jambe au ski. Donc maintenant, ça gêne plutôt mes interlocuteurs que moi en fait. Parce que du coup, ils peuvent se rendre compte si nous nous voyons un petit peu plus que je ne suis pas dans la catégorie des randonneurs ou que je ne me suis pas cassé la jambe au ski. Et du coup, peuvent être très gênés de leur maladresse. Alors que j'ai parfaitement l'habitude, j'ai déjà rencontré plusieurs fois ce genre de situation et que ça ne me gêne absolument pas.
C'est presque, on va dire, un petit peu drôle par rapport à d'autres choses que vous pourriez entendre. C'est gentil à dire.
Ah oui, c'est tout à fait délicieux parce que ça donne aussi de belles occasions de se rencontrer. Je crois que ce que j'ai appris au fur et à mesure de ces années de vie professionnelle et au fur et à mesure de ces années de vie, parce qu'en fait, ma vie professionnelle a correspondu à peu près à mon renouveau de foi aussi. Donc c'est deux parcours qui se... On va dire à partir de mes études. C'est deux parcours qui se rejoignent un petit peu. Mais sur toutes ces années, j'ai appris petit à petit à accueillir l'aide qui m'est proposée. Je l'ai appris à plusieurs occasions, mais une de mes amies me disait souvent, et me dit souvent, Cécile, donne-moi l'occasion d'exercer la charité. Et j'ai rencontré une autre fois, alors que je commençais tout juste à utiliser mon fauteuil roulant, parce que c'est quelque chose il y a aussi une dizaine d'années, qui est arrivé avec les vélos. C'est pour ça que je disais que c'est mon vélo. J'ai appris, j'ai découvert que je pouvais utiliser mon fauteuil roulant comme un moyen de déplacement. Et non plus comme un échec de la marche, mais comme quelque chose de positif qui pouvait m'aider dans mon déplacement. Et lorsque j'ai commencé à utiliser mon fauteuil roulant, je voulais donc le manipuler toute seule. Et une dame est arrivée derrière moi et me dit « Mademoiselle, voudriez-vous que je vous aide ?» J'ai répondu « Non, merci madame. » Et elle m'a dit tout de suite, écoutez, vous n'êtes pas la seule à avoir des problèmes. Moi, quand j'ai des problèmes, j'aime bien qu'on m'aide. Alors, s'il vous plaît, acceptez mon aide. Et du coup, j'ai pris son cabas de course sur les genoux. Elle a poussé mon fauteuil roulant jusqu'au bus où j'allais, sous la pluie. Et nous avons discuté un petit peu. Je ne l'ai jamais revue, mais en fait, je pense très souvent à elle, parce que grâce à elle, j'ai appris, ou j'essaye d'apprendre tous les jours à accueillir même l'aide que je n'aurais pas forcément sollicitée, l'aide qui m'est proposée à des moments où je me serais vraiment dit « non, je veux vraiment faire toute seule ». J'ai appris que ce sont de belles occasions de rencontre et que c'est une belle interdépendance, même si elle peut être difficile pour moi, et que c'est une belle occasion de grandir aussi.
Vous disiez tout à l'heure que le passage où vous avez eu votre fauteuil roulant correspondait plus ou moins à un renouveau de foi. J'ai presque envie de dire quel est le rôle de la foi là-dedans, mais comment est-ce que ça vous a aidé dans cette épreuve que peut être le handicap? Comment est-ce que vous l'avez vécu?
En fait, Jésus a toujours été un ami important dans ma vie, parce que mon premier souvenir dans ma Bible d'enfant, c'est Jésus qui guérit le paralytique. Et donc, c'était quelqu'un d'important, c'est quelqu'un d'important. Et effectivement, ma vie d'étudiante ou ma vie de jeune professionnelle a été l'occasion d'une appropriation de la foi reçue de mes parents et du coup d'une décision adulte d'adhérer à la personne du Christ. Et vraiment, ce qui a marqué ce renouveau pour moi, ce sont les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse de Rome. Le chemin de notre route passait par Paray-le-Monial, où j'ai été vraiment touchée par la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, où j'ai redécouvert par les paroles d'un prêtre la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, et où j'ai entendu aussi le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie: mon cœur est passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Et c'est vraiment ces deux éléments qui ont fait que j'ai souhaité reprendre une fréquentation régulière des sacrements, retourner à la messe, pour vraiment vivre une relation avec une personne vivante aujourd'hui, avec Jésus vivant aujourd'hui. Et c'est vraiment cet amour de Jésus pour moi, la prise de conscience de cet amour de Jésus pour moi, qui a changé, qui a été un élément fondateur dans ma vie. Et c'est cet amour qui me tient debout aussi dans toutes les difficultés que je rencontre.
On parle souvent de l'accessibilité en France, de l'accessibilité des entreprises. Quelle est l'accessibilité des églises? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile, quand on est une personne à mobilité réduite, de pouvoir vivre sa foi, de pouvoir aller dans une église, l'église qu'on veut? Comment est-ce que vous l'avez vécu, expérimenté, vous?
Ça, c'est difficile comme question. Alors en fait, moi je n'ai pas vraiment cette question-là, parce que quand je vais dans un nouvel endroit, je me déplace à pied, parce que je ne sais pas où je vais. Et puis si j'ai besoin d'aide, je vais solliciter, ou je vais... Soit je vais me dire que je suis capable d'y aller toute seule et sans avoir peur, soit je sais que je vais pouvoir demander à quelqu'un. Donc en fait, quand je vais dans un nouvel endroit, alors c'est valable pour une église ou partout ailleurs, je vais faire une première reconnaissance à pied, parce que ça me semble quand même moins compliqué.
On va plus s'intéresser seulement aux églises, mais de manière générale en France, comment vous jaugez la situation? Alors c'est vrai que vous avez quand même cette chance dans votre handicap de pouvoir quand même vous déplacer à pied avec vos cannes, donc ça doit quand même simplifier un petit peu le quotidien. Mais vous qui avez quand même aussi ce regard de personne qui peut être en fauteuil, comment est-ce que vous voyez la situation? Est-ce que la situation a progressé quand même sur ces, je sais pas, disons 10 dernières années?
Oui, je pense que la situation va dans le bon sens, progresse. Mon principal point de repère peut-être, c'est l'accessibilité des lignes de bus. Parce qu'effectivement, sur les 10 ou 12 ans où j'ai pris le bus, puisque aujourd'hui je ne prends plus le bus pour mes déplacements domicile-travail, mais je continue à faire tous mes déplacements privés en transport en commun. Et c'est important pour moi, pour la liberté de déplacement. Et effectivement, aujourd'hui, tous les bus, ou en tout cas tous ceux que j'ai l'occasion de fréquenter régulièrement, sont équipés d'un dispositif permettant de faire le lien entre le bus et le trottoir. Et les trottoirs ont été rehaussés partout, en centre-ville ou un petit peu à l'extérieur, autant que je sache, pour permettre que le bus et le trottoir soient au même niveau. Donc ça, c'est vraiment un point de progression important.
C'est important d'arriver à voir ces éléments positifs-là, finalement de prendre la vie du bon côté.
Je crois que s'il y avait un mot important pour moi, ce serait l'émerveillement. Et je crois que c'est vraiment ce qui permet de voir effectivement la beauté de la vie. Et dans ma prière quotidienne, la louange a une place importante. Et c'est vrai que ça a aiguisé aussi mon sens de l'émerveillement. Et puis le fait aussi, je crois, de me déplacer un petit peu plus lentement, Ça permet aussi du coup de prendre le temps d'émerveillement sur la création, mais aussi le temps des relations, et je crois que c'est ce qui est peut-être le plus important pour moi quand je me promène et quand je rencontre des personnes. Et du coup, oui, c'est une belle occasion d'émerveillement, de joie, vraiment source de joie.
Lundi, donc, c'était la journée mondiale du handicap. Quel mot vous aimeriez avoir, peut-être d'ailleurs, soit aux personnes à mobilité réduite, soit aux valides? Qu'est-ce qui a envie de sortir de votre cœur, là, maintenant, aujourd'hui?
Peut-être d'oser. Oser aussi bien pour les personnes à mobilité réduite, oser faire ce qu'elles ont envie de faire ou être ce qu'elles ont envie d'être, par-delà ce que peut dire le corps médical, qu'il faut respecter, mais oser dépasser les frontières qui peuvent être mises par le corps médical, par le regard des autres, par le handicap lui-même, et puis oser la relation. Et du coup aussi pour les personnes valides, oser aller à la rencontre des personnes en situation de handicap, peut-être prendre conscience que les handicaps sont très divers, le mien est visible, d'autres ne sont pas visibles, et d'autres situations ne sont pas caractérisées comme des situations de handicap, mais peuvent être des situations de grandes souffrances ou autres, mais qui peuvent être vécues par les personnes qui les portent au quotidien comme une forme de handicap, et seule la rencontre permet d'avancer de façon plus harmonieuse, de se rencontrer et de vivre, de se découvrir et de s'apprivoiser.
J'avais beaucoup aimé qu'un prêtre m'avait dit un jour, mais vous savez, le Seigneur ne s'est pas trompé en vous créant.
C'est important, et vous lui faites une grave offense quand vous vous dites qu'il s'est trompé. Et j'avais trouvé ça très beau, et j'y pense de temps en temps. Quand je me regarde parfois, je me dis, oui, je marche tordue, je mets plus de temps pour certaines choses, oui. Et oui, mais le Seigneur ne s'est pas trompé en vous créant. Et c'est une grave offense de vous dire ou de lui dire qu'il s'est trompé, et ça m'invite à faire confiance et à m'émerveiller aussi. Je crois que j'ai appris aussi à accueillir davantage ma fragilité, et j'ai appris à être davantage, ou j'essaye d'apprendre à être davantage et non pas seulement à faire et à me dire que je vais être missionnaire parce que je fais des tas de choses, mais peut-être aussi simplement en étant, en me laissant aimer déjà par le Seigneur comme il me crée aujourd'hui. Et puis je rends vraiment grâce parce que j'ai vu aussi dans cette année qui avait été vraiment difficile pour moi, qui a été une année de transition, c'est aussi une année où j'ai reçu deux filleules de baptême, une filleule de confirmation et aujourd'hui un troisième filleule de baptême. Et du coup j'ai pris conscience aussi par eux que je reçois la vie et que finalement ce n'est pas forcément en faisant des choses, mais simplement en accueillant la vie qui me donne.
Merci beaucoup, Cécile Etier.
Je vous remercie, Anaïs.